Chapitre 27. Les yeux luisaient comme des braises dans les plis du visage de la vieille femme. Elle avait offert un café immonde et des gâteaux secs aux deux flics, mais ne leur avait pas appris grand-chose. Paul ne cessait de soupirer. Il avait manifesté à 5 ou 6 reprises l'intention de partir. Edmé n'avait pas bougé, devinant que leur interlocutrice avait besoin de temps et de confiance pour leur déballer ses secrets. Elle les avait vus, Sylvaine et lui, sortir du chalet du jardin voisin. Elle passait donc une bonne partie de son temps à épier les environs. Elle jouissait d'une excellente vue, elle avait certainement remarqué un élément qui les mettrait sur une piste. Il fallait juste faire preuve de patience, entrer à pas feutrés dans son intimité, accepter de perdre du temps pour en gagner. Edmé mourait d'envie d'appeler l'hôpital pour prendre des nouvelles de Sylvaine. Elle imprégnait chacune de ses pensées. Il était affecté, bon Dieu, contaminé par cette femme. Le pire était qu'il ne s'en défendait pas, qu'il accueillait la maladie avec joie, qu'il acceptait de foutre en l'air sa tranquillité pour le bonheur crétin de sentir le souffle de Sylvaine sur son cou. Il n'avait rien ressenti de tel pour celle qui avait partagé 10 ans de sa vie. Il s'était embrasé et consumé en un feu aussitôt réduit en cendres. La passion et les frissons les avaient liés 3 ou 4 ans, puis les engueulades et les coups leur avaient tenu lieu de rapport avant qu'une lame silencieuse et empoisonnée se glisse entre eux pour les dépecer. Sylvaine, il avait juste envie de lui tenir la main, de l'entendre rire, de la couvrir d'une tendresse qu'il n'avait jamais ni prodiguée ni partagée. Paul Sérignon trompait son impatience en fixant par la fenêtre le cours grisâtre de la Marne. Un bateau à moteur traçait un sillon légèrement courbe entre le quai et l'île aux loups. Des rayons de soleil trouaient les nuages et tombaient en colonnes changeantes sur les arbres et la rivière. Les heures s'égrenaient, scandées par le tic-tac de la pendule franc-comtoise. Le salon sentait le renfermé, la cire, la poussière et le moisi. Les tapisseries jaunies et le carrelage blanchâtre dataient des années 1960. Les innombrables photos fixées au mur montrait pour la plupart un homme à différents âges, dont le regard grand ouvert semblait surveiller chaque recoin de la maison. Le mari de la vieille femme, mort à la fin des années 1970 d'un cancer du foie, ou d'une cirrhose, elle ne savait plus. Ils avaient eu 2 garçons, l'un était décédé dans sa 2e année d'une mauvaise fièvre, l'autre avait claqué la porte en 1984, à l'âge de 18 ans, et n'avait plus jamais remis les pieds à la maison. D'après la vieille femme, la ville de Nogent avait bien changé depuis la fin de la guerre. Le regard que Paul posait sur son équipier virait au vitriol. 3 ou 4 plombes qu'il se morfondait dans cette baraque qui suintait la mort, et il n'avait pas obtenu l'ombre d'un renseignement exploitable. « Avant la guerre, il y avait les guinguettes », disait la vieille femme. « Mon mari et moi, on en tenait une. Pas loin d'ici, fallait voir le monde le samedi. Des gens qui venaient de Paris, on travaillait avec un orchestre musette. On dansait jusqu'à l'aube, et il y avait une bonne ambiance. Pas comme maintenant dans leur fichue boîte de nuit. »
« Elle était où, votre guinguette ?»
Le pavillon un peu plus loin, celui avec le large ponton de béton. L'attention d'Edmé était à nouveau captée par la voix vacillante de la vieille femme. Avant d'être un simple ponton, c'était une terrasse où on mangeait et on dansait. La guinguette a bien tourné avant la guerre et presque plus après. Je l'ai revendue à la mort de mon mari pour acheter cette maison.
Vous parlez bien du pavillon qui se trouve au bord de la Marne avec une marquise en verre et un mur autour du jardin?
Le mur, c'est le nouveau propriétaire qui l'a construit.
Le nouveau propriétaire? Nos services n'ont trouvé aucun titre de propriété sur ce pavillon. La vieille femme hésita, prit un gâteau dans la boîte en fer, le grignota du bout des dents.
On l'a vendu de la main à la main, on l'avait hérité de ma grand-mère, on n'a jamais eu aucun papier. Le cas était plus fréquent qu'on ne le croyait. De nombreuses propriétés avaient changé de main sans que l'administration eût la moindre trace des transactions. Certaines se transmettaient de famille en famille, en oubliant de passer par la case notariale. Pour peu qu'aucun problème de voisinage ou de bornage ne se posât, il restait des cas comme celui-là qui passaient totalement au travers des mailles du filet fiscal. Vous vous souvenez comment il s'appelait, le nouveau propriétaire? La vieille femme se figea, les yeux tournés vers le plafond, remuant visiblement les fonds boueux de sa mémoire.
Je ne me souviens pas de son nom, je sais juste que c'était un drôle de loustique et qu'il avait une fille de 2 ou 3 ans. Une fille bizarre, un petit monstre, elle avait une curieuse façon de vous regarder avec ses yeux jaunes. On aurait dit une chatte guettant une souris.
Un visage s'imposa dans l'esprit d'Edmé. Une femme d'allure gothique, maquillage de vampire, ongles rouges, sang, yeux jaunes, regard cruel, pervers. La femme, qui était entrée avec ses trois complices dans la pièce du sous-sol où Sylvaine et lui-même avaient été enchaînés. Il s'appliqua à garder son calme. Surtout, ne pas tout gâcher par un excès de précipitation, ne pas briser le fil ténu de son interlocutrice.
« Vous ne vous souvenez pas du prénom de cette fille par hasard ?»
La vieille femme s'égara de nouveau dans les méandres de sa mémoire.
« Elle avait un drôle de prénom, pas courant. J'ai vu une fois à la télé une femme noire qui écrivait des bouquins et qui portait le même.
Ah, c'est comment déjà ?»
Paul, en bon flic, avait également reniflé la piste et, les coudes posés sur ses cuisses, projetait sa tête en avant comme un chien à l'arrêt.
« Cal...
Ça y est, ça me revient. Calixte !»
Bingo. Le jeune taré à tête d'Iroquois pressé de cogner avait lâché étourdiment le prénom de la femme aux yeux jaunes, Calixte. Les dires de la vieille femme confirmaient qu'il s'agissait bien de son prénom, pas d'un pseudonyme.
« Je l'ai vu traîner quelquefois dans le coin avec des hommes bizarres. Ils avaient un fourgon noir tout en tôle, vous savez, sans vitre sur les côtés. Ils venaient toujours en pleine nuit. J'ai jamais su ce qu'ils trafiquaient. »
Les policiers de Nogent ont fait une première enquête. Ils sont sûrement passés chez vous. Pourquoi ne leur avez-vous rien dit ?
Ils sont restés sur le pas de la porte, deux jeunes. Ils m'ont juste demandé si j'avais remarqué quelque chose ces derniers temps. Ils avaient l'air pressés et ils ont à peine écouté ce que je leur disais.
Paul avait sorti un petit carnet noir sur lequel il griffonnait des notes au crayon de papier. Les yeux de la vieille femme se posaient comme des oiseaux effarouchés sur la main du sixième de groupe, comme si le fait de transcrire ses paroles leur conférait un tour solennel.
« Vous ne sauriez pas où elle habite maintenant ?» demanda Edmé.
« D'après mon fils ?»«
Votre fils. Je croyais qu'il n'avait jamais remis les pieds à la maison. » »«
Il m'a téléphoné deux ou trois fois. J'ai cru comprendre qu'il était installé du côté de Crécy-la-Chapelle, en Seine-et-Marne. »
Quel rapport avec cette Calixte ? La vieille femme marqua un temps de silence, les yeux perdus dans le vague, le visage baigné de toute la détresse du monde.
« Ah ! Je ne vous l'ai pas dit, fait partie de sa bande !»
D'après le chirurgien, l'opération de Sylvaine s'était plutôt bien déroulée. Il s'engageait sur le pronostic vital, mais pas encore sur ses chances de recouvrer l'intégralité de ses fonctions. Elle risquait de rester paralysée des membres inférieurs, ou, au moins, garder des séquelles de la blessure, comme une motricité altérée ou une raideur dans les jambes. On ne pouvait pas lui rendre visite pour l'instant. Elle était très faible, elle avait besoin de repos. Dans 3 ou 4 jours peut-être. Edmé raccrocha, rejoignit Paul près de la voiture et fuma une cigarette, assis sur le capot.
« T'as eu Giovanni ?»
Il s'était réparti les tâches au sortir du pavillon de la vieille femme. Paul se chargeait d'informer le chef de groupe, tandis qu'Edmé prenait des nouvelles de Sylvaine.
« Et Sylvaine ?»
Ça s'est bien passé. Edmé prit une profonde inspiration pour avaler une soudaine envie de pleurer. Voilà qu'il virait sentimental sur la fin de sa vie. Voilà qu'il avait du chagrin pour une femme. La bonne nouvelle, c'est qu'elle s'en sortira. Mais elle gardera peut-être des séquelles. Paul hocha la tête en lançant un regard intrigué à son équipier.
On file tout de suite à Crécy-la-Chapelle, la piste est chaude, et Giovanni nous encourage à fouiner de ce côté-là. On reste sur place au besoin. L'État, dans sa grande générosité, nous offre le gîte et le couvert.
Ils s'engluèrent dans le trafic jusqu'à l'entrée du parc Disney. Paul poussa tous les jurons qu'il connaissait et en inventa de nouveau à l'occasion. La 4, autrefois dégagée, était censée s'embouteiller depuis que Mickey et ses potes avaient élu domicile dans les champs de betteraves de Seine-et-Marne. Ils sortirent à Séris, passèrent Bailly, découvrirent enfin dans un méandre de la descente de Dainville la vallée du Morin, havre de verdure et de paix qui contrastait avec la prolifération des pavillons et des immeubles sur le plateau. Ils traversèrent Villiers, franchirent le Morin, suivirent la Nationale et rejoignirent Crécy-la-Chapelle 2 kilomètres plus loin. La vieille femme ne leur avait pas fourni d'autres précisions. Elle leur avait seulement remis, des larmes dans les yeux, la photo la plus récente de son fils. Edmé ne le reconnaissait pas. Il ne faisait pas partie de ceux qui avaient escorté Calixte dans les sous-sols du pavillon. La sainte patronne des psychopathes pouvait habiter dans un rayon de 10 kilomètres, voire plus, mais il y avait de fortes chances qu'elle se fournisse à Crécy, une ville de 3 ou 4 000 habitants, équipée de 2 supermarchés. Ils se garèrent sur la place centrale et se dégourdirent les jambes dans les ruelles environnantes. Le Morin et les canaux donnaient à la ville des allures de Venise campagnarde. Les canards avaient remplacé les pigeons, les saules plongeaient leurs chevelures dans une eau grisâtre, les barques pourrissaient, nonchalantes, sur les pavés boueux des grèves. Les paysages dévoilés au détour des rues et des façades évoquaient les tableaux bucoliques des peintres anglais du XVIIIe siècle. Leur promenade conduisit les deux flics à la sortie de Crécy. Une jolie maison surplombait le Morin, à côté d'un pont. Une plaque mentionnait le séjour de Jean-Baptiste Corot dans les lieux. Edmé entra dans une boutique qui vendait, entre autres, vêtements et couvre-chef.
Je vais acheter une casquette ou un chapeau. Calixte m'a vu. Si on la croise et qu'elle me reconnaisse, on risque de la perdre.
Il ressortit quelques instants plus tard avec un chapeau de feutre noir orné d'un fil de cuir tressé.
Super classe, commenta Paul avec un sourire.
Classe ou pas, essayons de ne pas trop avoir l'air flic, marmonna Edmé.
Je crois bien qu'on aurait l'air flic, même complètement à poil. Une vraie malédiction.
Ils commencèrent leur surveillance par le café-bureau de tabac niché dans un recoin de la place centrale. Une surveillance muette. S'ils interrogeaient les commerçants maintenant, ils risquaient d'éveiller l'attention d'un comparse et de réduire leurs maigres chances à néant. Il leur fallait se montrer discret, patient, ménager l'effet de surprise. Ils ne brusqueraient les choses que si leur planque ne donnait aucun résultat. Le bureau de tabac leur semblait un bon point de départ. C'était le seul de la ville, le passage obligé de tous les fumeurs, et il y aurait bien au moins un accro de la clope parmi les sbires de Calixte. Il présentait des caractéristiques aisément reconnaissables. Crête, vêtements de cuir ou jeans, tatouages. Comme la nuit tombait et que les gâteaux secs de la vieille femme les avaient davantage écœurés que nourris, ils s'installèrent dans une pizzeria dont la vitrine donnait sur l'entrée du bureau de tabac. Ils mangèrent en silence, les yeux rivés sur l'autre côté de la rue, regardant la nuit se déployer entre les bâtiments, s'arrêtant de mâcher chaque fois qu'un client poussait la porte du café. Un courant renvoyait sans cesse les pensées d'Edmé vers Sylvaine. Il lui semblait parfois que les contours de son visage lui échappaient, qu'elle sortait de sa tête, et il paniquait, se disant qu'on ne pouvait égarer comme ça une femme qui vous obsédait à ce point. Il se remémorait alors le baiser fougueux qu'elle lui avait donné dans les sous-sols du pavillon, tordu par ses chaînes, avec ses traits défaits et ses cheveux collés par le sang. Et elle lui revenait aussi nette, aussi réelle, que si elle était en ce moment assise en face de lui, à la place de Paul, qui réglait avec un plaisir vorace le sort de sa pizza orientale.
« Faudrait peut-être qu'on s'occupe de dégoter un hôtel », suggéra le sixième de groupe en s'essuyant les lèvres.
« On n'aura qu'à demander au serveur. »«
T'as pas l'air dans ton assiette, le miso. »
Le regard de Paul s'était fait inquisiteur. Son assiette, lui, il déployait une belle énergie à la nettoyer avec un restant de pâte.
« Tu t'inquiètes pour Sylvaine, c'est ça ?»
Edmé ne répondit pas. Un fourgon venait de se garer en face, noir. Sans vitre. De l'index, il attira l'attention de Paul sur le type entièrement vêtu de jean et coiffé d'une casquette américaine qui entrait dans le tabac. De l'autre main, il fit signe au serveur de leur apporter la note. Il n'avait pas beaucoup de temps. Le moteur du fourgon continuait de tourner. Paul nota la plaque minéralogique sur son carnet Moleskine. Immatriculé en Seine-et-Marne. Le serveur ne se pressait pas, discutant et rigolant avec le patron du restaurant, pachyderme planté derrière son comptoir.
Surveille-le, je vais payer. Souffla Edmé en remettant son imper et son chapeau.
Mangue-toi, on va le perdre.
On apercevait par la vitrine du café la petite file de clients derrière le présentoir à journaux. Le conducteur du fourgon arrivait en cinquième position. Le serveur ne se pressait pas pour taper son addition et sortir le terminal à carte bleue. Edmé l'aurait volontiers étranglé s'il n'avait pas eu peur de perdre encore plus de temps. Paul se leva, s'approcha de son équipier.
Il va pas tarder à sortir. Je cours prendre la bagnole.
Edmé acquiesça en saisissant son code. Il ne se hasarda pas à réclamer une facture. Le serveur mettrait au moins 3 minutes à la lui fournir. Il arracha sa carte de la machine et fila sans prendre son reçu. Il sortit de la pizzeria au moment où le type vêtu de jean remontait dans le fourgon tollé, scruta la rue baignée d'obscurité, la place en enfilade. Qu'est-ce que foutait Paul, bon Dieu ? Son regard accrocha un sens interdit éclairé furtivement par les phares d'une voiture. Le conducteur du fourgon alluma une cigarette. Son visage rougeoya derrière le pare-brise. Une volée de doutes se leva dans la tête d'Edmé. Les indices étaient minces. Un fourgon noir, un conducteur vêtu de jean, pas de crête, pas de tatouage apparent. Il fonçait peut-être dans une impasse. Le seul moyen d'en avoir le cœur net, c'était de suivre la piste jusqu'au bout. Le fourgon démarra, et Paul qui ne se pointait toujours pas. Edmé suivit des yeux les lumières rouges s'éloignant à vive allure dans la nuit. La 307 déboucha enfin de l'obscurité et pila à sa hauteur.
« Grimpe !» hurla Paul.
Edmé s'engouffra sur le siège passager et tendit le bras.
« Par là !»
Paul écrasa la pédale d'accélérateur et martyrisa la boîte de vitesse. La nuit avait absorbé les dernières lueurs du fourgon.
« Pourvu qu'il n'y ait pas de croisement, comme là, Edmé.
Qu'est-ce que tu foutais, bordel ?»« Putain de sens interdit, j'ai failli m'en plafonner une moto !» « C'est pas lui là-bas »
Les éclats rouges ressemblaient effectivement à ceux qui avaient disparu quelques secondes plus tôt.
T'approche pas trop près. Ces mecs sont hyper méfiants. S'il s'agit bien d'un membre de la bande.
T'en es pas sûr?
Tant qu'on les aura pas coincés, ces salopards, on sera sûr de rien.